Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
C'est pas loin de 300 emplois directs et en emplois indirects, c'est évidemment plusieurs milliers d'emplois. C'est des personnes qui consomment sur le territoire, donc oui, ça a un impact économique extrêmement fort.
Demain, comment relancer le secteur du tourisme? Plusieurs réunions sont prévues dans les tout prochains jours. Nous serons dans les stations thermales d'Auvergne qui désespèrent de revoir des clients.
Les élèves de retour à l'école, comment s'est passée cette première journée? On posera la question à Héloïse, 8 ans. Nous la suivons depuis ce matin.
Où sont les Français les plus riches? L'INSEE publie une étude, leur âge, leur profil, leur lieu de résidence.
Dans ce journal de 19h, on se projette sur demain. Demain en France, à quoi ressembleront nos entreprises?
Et demain dans le monde, le géant américain fragilisé. Attention, dit un conseiller de Donald Trump, à ne pas déconfiner trop vite. Le foot et le Français Adrien Rabiot qui refait parler de lui. Il refuse de reprendre l'entraînement à Turin.
Et puis les livres, enfin déconfinés.
Un bonheur. J'ai l'habitude de venir, j'aime bien regarder les livres, je suis même étonnée de pouvoir le toucher, donc c'est parfait. La vie recommence, ça fait du bien.
La vie recommence dans les librairies, les lecteurs s'y précipitent.
Et la tendance météo, c'est Anissa.
Avec toujours un département placé en vigilance orange au cru. Ça se passe dans le sud-ouest et c'est le département des Landes. Demain, encore beaucoup de pluie, notamment sur la moitié sud du pays. Je vous donne tous les détails de cette journée très humide à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Quel tourisme pour l'été? La question est totalement en suspens. Demain, la Commission européenne doit rendre des recommandations sur l'ouverture des frontières. Et la France prépare une sorte de plan Marshall, 1,3 milliard d'euros d'investissement pour relancer le secteur où les pertes sont considérables. Exemple ce soir, dans les stations thermales, elles devraient en cette période redémarrer la haute saison, mais n'ont aucune perspective, notamment en Auvergne. Reportage de Jean-Luc Bougeon.
Depuis deux mois, Vichy est une ville morte. Pourtant, en temps normal, le printemps, c'est la pleine saison pour la station thermale de l'Allier. Les curistes sont partout, dans les trois établissements thermaux, ainsi que dans les 20 hôtels de la ville. Mais là, tout est fermé. La date de reprise des activités n'interviendra pas avant mi-juillet, au mieux. Une catastrophe économique, selon le maire Frédéric Aguilera.
C'est pas loin de 300 emplois directs et en emplois indirects, c'est évidemment plusieurs milliers d'emplois, puisque des cures classiques, c'est 21 jours, donc obligatoirement, pendant 21 jours, c'est des personnes qui consomment sur le territoire. Donc oui, ça a un impact économique extrêmement fort.
Même chose à Châtel-Guyon, près de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. La société France Terme devait inaugurer il y a 15 jours un tout nouveau resort thermal de luxe. Mais le virus est passé par là. Tout est arrêté, explique Sylvain Serafini, PDG de la société.
C'est un gros coup dur parce qu'il casse la dynamique d'ouverture qui était pour le coup très intéressante. On était sur des niveaux de réservation très encourageants. C'est un projet très lourd, 35 millions d'euros investis pour un projet. C'est vraiment un des plus gros projets sur le domaine thermal en France.
Une situation qui inquiète d'autant plus que, comme à Châtel-Guyon, les établissements thermaux sont souvent implantés dans des petites villes de 5 ou 6 000 habitants, dont ils sont la principale ressource. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et en revanche, sur la côte, c'est bien parti pour un certain nombre de plages qui pourraient rouvrir dans les tout prochains jours. De nombreux maires ont déjà déposé leurs demandes. Les préfets doivent trancher. Il s'agirait d'abord d'autoriser la promenade et les activités sportives.
Voilà, peut-être pour ce week-end, hein, si vous êtes à moins de 100 km. En attendant, les enfants ont fait leur retour à l'école, peu nombreux et dans des conditions très encadrées.
Et certaines villes ont commencé à accueillir ce matin les élèves de maternelle et de primaire. Dans les quelques jours qui viennent, ils seront 1,5 million à reprendre la classe avec lavage des mains, table très espacée. Premier retour d'expérience ce soir avec Héloïse, 8 ans dans les Yvelines. Nous l'entendions dès ce matin sur Europe 1 avec son frère. Elle nous raconte sa journée aux côtés de sa maman.
J'ai retrouvé deux enfants vraiment très très contents de leur journée.
Je préfère quand même être à l'école. C'est bien mieux qu'à la maison.
Un protocole bien respecté, très lisible en termes de marquage, en termes de circuit, de circulation pour les enfants, pour les parents, avec des horaires décalés. Chacun arrive avec son horaire en fonction de son niveau. C'est très rassurant.
Quand c'est l'heure de la récréation, on se lave les mains avant de descendre. Et en récréation, il y a des marques oranges dans la cour.
Elles sont faites pour quoi, ces marques?
Pour qu'on ne soit pas collés les uns et les autres.
Au-delà de l'encadrement, du respect des règles, du respect aussi des distances, on sentait bien qu'il y avait cette joie de se retrouver aussi, parce qu'on les connaît, ces gens de l'école.
Voilà, Héloïse et sa maman qui racontent leur journée à Victor Dolande.
Et dans la Vienne, à Chauvigny cette fois. Cette fois, la rentrée de toutes les écoles est reportée car 4 cas de Covid avaient déjà été détectés au collège et c'est maintenant l'enseignante d'une école qui a été testée positive.
La loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire est entrée en vigueur, ça y est, aujourd'hui. Donc si vous devez parcourir plus de 100 km et sortir de votre département, une nouvelle attestation qui indique les motifs autorisés est en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. Et attention, en Île-de-France, il vous faudra dès demain l'attestation de votre employeur pour prendre les transports en commun. Aux heures de pointe, les contrôles vont commencer.
Sur le plan économique, maintenant, le confinement a coûté 6 points de croissance. C'est que ce que chiffre en tout cas la Banque de France à ce jour.
Avec un ralentissement de l'activité qui est lui chiffré à 27%. Qui sont les revenus les plus hauts en France et où vivent-ils ? L'INSEE a publié aujourd'hui une étude portant sur les foyers les plus fortunés. Une sorte de portrait robot d'1% des Français les plus riches. Olivier Samain.
Vous faites partie des 1% des personnes les plus aisées en France si vous gagnez plus de 9000 euros par mois pour une personne seule et plus de 19000 euros par mois si vous êtes en couple avec deux enfants. Vos revenus, ils proviennent plus souvent que chez l'ensemble des Français de ce que vous rapporte votre patrimoine. Chez 22% des personnes à très haut revenu, le patrimoine est d'ailleurs la principale source de rentrée d'argent devant les revenus du travail. Alors forcément, vous payez beaucoup d'impôts. Les très hauts revenus, dit l'INSEE, reversent 30% de ce qu'ils touchent en impôts directs, alors que pour l'ensemble des Français, ce n'est que 15%. On retrouve là, entre autres, l'effet du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Si on vous cherche, on a peu de chances de vous trouver en Bretagne. C'est la région de France où vous êtes le moins nombreux en proportion de la population. En revanche, on vous croisera plus facilement en Île-de-France où habite 43% des très hauts revenus français, principalement à Paris et dans les Hauts-de-Seine. En dehors de l'Île-de-France, ce sont les départements frontaliers avec la Suisse qui concentrent le plus de très hauts revenus. En Haute-Savoie, par exemple, ils représentent 2% de la population.
Olivier Samain du service économie d'Europe 1.
Le monde du foot maintenant, qui est décidément agité par les conséquences de l'épidémie. Le président du club d'Amiens était notre invité tout à l'heure. Il dépose un recours contre sa relégation en Ligue 2, provoquée par l'arrêt du championnat.
Et puis il y a les clubs qui ont dû réduire les salaires et les joueurs stars qui le vivent mal. Exemple, Adrien Rabiot, nouvel esclandre autour du Français qui, souvenez-vous, avait déjà claqué la porte de l'équipe de France. Cette fois, Simon Rubin, il n'a pas repris l'entraînement à la Juventus Turin.
C'est effectivement pas la première fois qu'Adrien Rabiot fait parler de lui pour des problèmes de relations avec les institutions, voire avec l'autorité, vous l'avez rappelé. Cette fois, c'est le journal italien La Stampa qui révélait que le joueur ne s'était pas montré à la reprise de l'entraînement de son club, la Juventus de Turin. Effectivement, il était encore à ce moment-là en France, où il a passé le confinement, où il a suivi un programme de préparation physique. Du côté de la Juventus de Turin, on s'est assez vite agacé. La Stampa parlait même d'une grève du joueur qui voulait protester contre un report de ses salaires pour raison de crise économique due au Covid. Alors, Adrien Rabiot a fait savoir aujourd'hui qu'il n'en est rien. Il n'a pas du tout fait grève. Il sera bien à Turin dès mercredi. Il avait simplement quelques doutes sur les conditions, notamment sanitaires, de la reprise. Alors, l'histoire semble loin d'être totalement éclaircie. Elle témoigne en fait des relations très fraîches entre Adrien Rabiot et son club, la Juventus de Turin, qui n'est pas convaincue ni par le niveau du Français depuis son arrivée en début de saison, ni par son comportement.
Le récit de Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Sans commentaire. On va donc redescendre dans la vraie vie, en fait. Parmi les commerces dont la réouverture était la plus attendue, il y a les librairies. Ça y est, elles ont levé le rideau.
Et les lecteurs n'ont pas attendu pour s'y précipiter. Nicolas Caro, lui-même, s'est rendu à la librairie Lamartine dans le 16e arrondissement de Paris.
Il fait beau, on a plein de monde et depuis hier, on a je ne sais combien de personnes qui nous remercient de réouvrir. Donc ça fait très très plaisir.
On devine le sourire du libraire Stanislas Rigaud derrière son masque. Les clients sont revenus en nombre depuis lundi malgré les gestes barrières à respecter. Comme Thérèse, 85 ans, une habituée.
Un bonheur. Puis en plus, il n'y a pas trop de contraintes. J'ai l'habitude de venir, j'aime bien regarder les livres. Je suis même étonnée de pouvoir le toucher. Donc c'est parfait. La vie recommence, ça fait du bien.
Rayon jeunesse, on croise Étienne. 15 ans qui flâne, il avait prévu de quoi tenir pendant le confinement, mais il est à sec et il préfère venir directement à la librairie plutôt que commander sur internet.
Je peux regarder un peu le résumé du livre à l'arrière, voir à peu près comment est le livre. J'aime bien aussi voir les reliures parfois, c'est assez intéressant.
Seul problème, les nouveautés, les stocks ne se renouvellent pas, il n'y a plus de réassort, il faut tenir en attendant. Stanislas Rigaud.
On attend le réassort, on attend de voir à quelle vitesse la chaîne va se remettre en route, en fait. Et c'est la vraie interrogation.
Un délai qui permet quand même au livre paru juste avant le confinement de se refaire une santé. Le dernier roman de Leïla Slimani, par exemple, sorti début mars, fait un carton en ce moment.
Nicolas Caro, spécialiste livre d'Europe 1. Des livres, hein, mais toujours pas de concert. Le dernier grand festival de l'été est à son tour annulé. C'était Rock en Seine, hein, programmé fin août à Saint-Cloud, tout près de Paris. 100 000 visiteurs l'année dernière. Il est reporté à 2021. La tête d'affiche, c'était ça. Voilà, c'était Rage Against the Machine, la tête d'affiche. Ça vous parle, Nathalie ?
Mais tellement, ce morceau,
bah oui,
ce morceau-là particulièrement, qui donne une pêche terrible.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Allez, on reste ensemble, on poursuit. Hein, Sébastien, on va se projeter sur demain, demain en France, avec Jean-Pierre Montanet. À quoi ressembleront nos lieux de travail, nos entreprises? On va en parler aussi jusqu'à 20h.
Et puis demain dans le monde, avec Didier François, l'économie américaine profondément fragilisée.
Et votre grand journal du soir, 2h d'infos avec Nathalie Lévy sur Europe 1. La suite du journal sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Et dans le journal de 19h, on se tourne vers l'actu de demain, Nathalie.
Avec Jean-Pierre Montanet. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Sébastien.
Eh oui, le Covid, hein, il bouleverse l'organisation au travail. On le sait, on le constate, on le voit. La physionomie de nos bureaux va demain radicalement changer.
Oui, et principale victime, hein, l'open space hein, que vous connaissez bien tous les deux. Il concerne un tiers des salariés en France qui travaillent dans un bureau. Les avantages, on les connaît, une meilleure communication, un esprit d'équipe valorisé. Les défauts aussi, hein, difficulté de se concentrer, impression d'être surveillé en permanence. Et surtout, c'est prouvé par des études, en entassant toujours plus de monde, la productivité décline. Démontré aussi par une enquête danoise, l'open space favorise la propagation des maladies. Avec le Covid, l'open space fait désormais peur. Résultat, rué sur le plexiglas hein, pour créer des espaces étanches comme des bulles, obligation de supprimer au moins un siège sur deux, histoire d'éloigner les salariés collés les uns aux autres.
Voilà, la distanciation dans l'open space est à la mode. Du coup, le grand gagnant, c'est quoi? C'est le télétravail?
Exactement, un serpent de mer. Hein. Depuis l'avènement des ordinateurs domestiques, il avait du mal à sortir de l'exception. En 54 jours de confinement, le travail à distance a fait plus d'adeptes qu'en 3 décennies. Avant la crise, 7% seulement des salariés télétravaillaient, 30% désormais, soit 7 millions de personnes. Beaucoup ne vont pas revenir au bureau avant décembre, hein, prédisent des DRH, surtout au sein des grandes sociétés. L'idéal, selon certains dirigeants, serait de panacher 3 jours à la maison, 2 au bureau pour les réunions, les brainstorming, histoire de ne pas couper le lien physique avec la boîte.
Alors sur le papier, ça a l'air bien, hein, la généralisation du travail, mais elle va forcément faire évoluer le code du travail, alors si on en est à ces chiffres-là.
Oui Nathalie, ce télétravail est déjà encadré par une loi de 2017, mais sa banalisation risque d'alerter salariés et syndicats sur des dérives possibles. À quelle heure, par exemple, s'arrête la journée de télétravail dès lors qu'on pianote sur son ordi depuis son canapé? D'ailleurs, le ministre du Travail vient de publier un guide pour aider entreprises et salariés dans cette nouvelle organisation. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises doivent contribuer à la professionnalisation de ces pratiques à domicile en fournissant un matériel, ordinateur, connexion Internet compétitif, fiable, pour ne pas faire exécuter des tâches au rabais et exposer les salariés au piratage de données lors, par exemple, de ces fameuses visioconférences qui sont très à la mode en ce moment.
Ah oui, évidemment. Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet. On retient, hein, on est passé de 7% avant la crise à 30% aujourd'hui, soit 7 millions de personnes qui sont en télétravail. Tout cela, on va en reparler jusqu'à 20h, hein, au 3921. Appelez-nous, hashtag Radio Ouverte également. On en discute avec les auditeurs ce soir sur Europe 1. Merci Jean-Pierre Montanet. On va filer aux États-Unis, Sébastien Krebs.
Hein. C'est le médecin qui conseille Donald Trump qui s'exprimait devant le Sénat aujourd'hui. L'épidémiologiste Anthony Fauci avertit le président. Attention, les conséquences d'une réouverture trop rapide du pays serait très grave. Il estime d'ailleurs que le bilan aujourd'hui, plus de 80 000 morts, est surestimé.
Mais le président Donald Trump est focalisé sur qui? Sur lui, sur les chiffres de l'économie précisément.
J'ai créé avec beaucoup d'autres personnes talentueuses et les gens de notre pays la plus grande économie de l'histoire du monde. La meilleure que nous n'ayons jamais eue.
Bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Demain dans le monde, la réserve fédérale américaine va révéler l'ampleur des pertes économiques. On l'entend là dans l'Arizona, Donald Trump, il paraît quand même assez optimiste.
Oui, on va dire ça comme ça, parce que malheureusement, tous les indicateurs sont dans le rouge, avec une tendance assez nette, au rouge vif même. Un chiffre, tout simplement, celui du chômage, rendu public vendredi par le Bureau des statistiques du travail, très officiel. 20,5 millions d'emplois perdus pour le seul mois d'avril, avec un taux de chômage qui frôle les 15%, alors qu'il tournait habituellement autour des 3% avant la crise. C'est un record absolu battu depuis la Grande Dépression de 1929. Et le pire, c'est que le secrétaire d'État au Trésor, qui est donc le ministre des Finances, prévoit une aggravation pour le mois de mai. On est donc assez loin des fanfaronnades de la Maison-Blanche sur les résultats formidables de l'Amérique sous la direction du président.
Ouais. Et alors, on a une échéance quand même, hein, Didier François. On est à 6 mois de l'élection présidentielle.
Oui, ceci explique un peu cela, d'accord. Donald Trump a bâti toute sa campagne sur son bilan économique et particulièrement sur la question de l'emploi. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il pousse aussi fort pour une levée immédiate du confinement, alors que tous les experts sanitaires constatent que l'épidémie est loin d'être maîtrisée. On vient de l'entendre, les États-Unis ont franchi hier la barre des 80 000 décès liés au coronavirus et il semble que l'épidémie ne soit pas encore terminée. Le pic n'a pas été atteint. Et c'est aussi la raison d'ailleurs pour laquelle Donald Trump attend beaucoup des annonces de la Réserve fédérale demain, parce que cette Fed a débloqué des sommes colossales, 2 300 milliards de dollars pour tenter de sauver les entreprises en difficulté en rachetant une partie de leur dette. C'est d'ailleurs une assez grande première pour la Fed. C'est pas totalement cohérent avec son orthodoxie libérale, mais c'est assez révélateur de la tendance générale et de ce que seront les politiques des États pour relancer l'économie.
On suivra ça évidemment demain avec les annonces de la Réserve fédérale américaine. L'épidémie qui n'est pas terminée, mais dans certains États, on a rouvert les restaurants déjà aux États-Unis.
On avait déjà rouvert les plages. Il y avait déjà des gens sur les plages il y a 3 semaines.
Donc ça va très vite.
Merci. Merci beaucoup Didier François et merci à vous Sébastien Krebs. On va vous retrouver à 19h30, hein. Vous ne vous éloignez pas. Anissa, des températures fraîches. Hein.
Ah oui, vous l'avez senti, hein. On a remis des pulls, même parfois des pulls col roulé parce que les températures, elles sont très fraîches surtout le matin et elles sont bien en dessous des moyennes de saison. Nous avons des températures qui normalement sont dignes d'un début de mois de mars actuellement. Voilà. C'est vrai que c'est très très frais. Je vais d'ailleurs vous les détailler dans un instant, je vais d'abord vous parler du ciel de demain avec les trois quarts sud du pays placés sous la pluie. Demain, les pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur, le Massif central, la vallée du Rhône, les Alpes, la Bourgogne, le Nivernais. Si vous habitez dans l'une de ces régions, demain, c'est parapluie obligatoire puisqu'il pleut du matin jusqu'au soir. Et dans l'après-midi, dans la vallée du Rhône, la Bourgogne et le sud du Massif central, les pluies vont même prendre un caractère orageux. En Bretagne, Normandie, en région parisienne, et en Alsace, toutes les régions qui se situent au nord de la Seine, et bien là c'est une journée au sec avec quelques éclaircies dans l'après-midi. Alors les températures, je vous le disais, elles sont froides à cause du vent qui souffle. 1 degré à Charleville-Mézières, 2 à Verdun demain matin, 3 à Nancy, 5 à Belfort, 7 à Paris, 10 à Bordeaux. Et puis au meilleur de la journée, bah, les températures elles restent très fraîches avec 13 à 18 degrés sur l'ensemble du pays demain, jusqu'à 25 en Corse, à Ajaccio. Et un mot rapide sur le département des Landes, toujours placé en vigilance orange, crue et inondation.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité dans un instant, Nathalie Lévy.
Oui, le maire de Cannes, David Disnard, parce que demain aurait dû, et là même ce soir à l'heure où nous parlons, la montée des marches devait se faire.
Nous avons maintenant l'honneur d'accueillir le jury du 72e Festival de Cannes, mené par son président Alejandro González Iñárritu. Le réalisateur et scénariste Pavel Papoukos.
C'était la dernière montée des marches. Il aurait dû, David Disnard, le maire de la ville, être lui aussi sur le tapis rouge. Eh bien, on sera ensemble, mais par téléphone ce soir, et pour nous donner évidemment la couleur de sa ville, alors qu'il est à tout de suite.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours, jusqu'à 20h avec Nathalie. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Demain devait commencer la compétition à Cannes, le festival emblématique du film, annulé bien sûr pour cause de Covid. Alors quel avenir pour le cinéma? Quelles sont les répercussions pour la ville de Cannes? Vous recevez son maire, David Lisnard.
Le maire LR de Cannes, en effet. Bonsoir David Lisnard, bienvenue sur Europe 1.
Merci, bonsoir.
Vous auriez dû être quasiment là sur les marches à l'heure où nous parlons, parce qu'on est typiquement là, dans ce moment, cette montée des marches internationale qui se déroule sous les yeux de toutes les caméras du monde entier. Demain, le début de la compétition, normalement. Du coup, vous êtes dans quel état d'esprit là ce soir?
Vous savez, on est dans l'état d'esprit de tous les Français, c'est-à-dire qu'on est concentré depuis 2 mois sur cette crise du Covid-19. à la fois sur l'exigence de sécurité sanitaire, bon, on ne revient pas là-dessus, je crois que tout a été dit, et Cannes a essayé d'être très proactive en la matière, ça a été dit aussi, on a essayé d'anticiper, on a été une ville qui a donné de façon très précoce des masques à chaque habitant, à chaque professionnel, etc. Mais donc l'état d'esprit, il est toujours là, évidemment, parce qu'on craint un retour de la maladie, et on est dans la période dite de déconfinement où il faut concilier la précaution sanitaire, protéger des vies, et parallèlement retrouver des échanges de la vie sociale, de la vie économique, parce qu'on est face à un désastre social et économique partout en France, et notamment chez nous, notamment pour des artisans, des commerçants, parce que...
Mais tout ça, on va y revenir, si vous le voulez
On aime les marches, on n'aime pas les marches, si vous voulez, mais la difficulté, c'est que derrière tout ça, il y a une réalité humaine, sociale, très, 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 très violente.
C'est pour ça que je vous posais vraiment la question, parce qu'il est incontournable, ce festival. C'est votre ville, c'est le poumon de Cannes, en quelque sorte, ce festival de Cannes. On va donc devoir enjamber, en quelque sorte, cette édition 2020, et ça va avoir des conséquences, inévitablement. Est-ce que vous savez d'ores et déjà comment la ville va pouvoir survivre à cette annulation ?
Alors, il y a le Festival de Cannes, il y a tout le reste. Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, c'est devenu le premier de France hors Paris. Il y a le Festival de Cannes, les gens l'aiment pas, il y a des visions parfois clichées, etc. Mais c'est l'événement mondial de la diversité culturelle. Et pour nous, ça fait vivre des artisans, des commerçants, des femmes de chambre, etc. Mais il y a aussi le MIPIM qui a été annulé, qui est énorme. Le MIP TV avec Cannes Série, qui est un magnifique festival des séries, et le MIP TV. On a le Festival de la Publicité, le Tax World Exhibition. Ce sont à chaque fois des leaders mondiaux, des rendez-vous professionnels de ceux qui font les industries dans plusieurs secteurs. Et on a toute une chaîne de valeur. Cannes, on a trois piliers économiques. On a le satellitaire avec Thales Alenia Space, plus grande usine de construction de satellites en Europe, elle est à Cannes. On a le nautisme et on a le tourisme en général, dont le tourisme d'affaires. Et le Palais des Festivals et des Congrès, l'emblème, c'est Cannes. Donc aujourd'hui, au moment où je vous réponds, on essaie d'envisager la suite. On travaille sur des plans de relance. On travaille. On essaie
mais
de faire
vous avez déjà fait les totaux. Est-ce que vous savez, aujourd'hui,
si
les
vous
pertes
des
engendrées,
chiffres,
tant par le festival que par ces événements que vous avez cités.
Pour refocaliser les manifestations. Les grandes manifestations professionnelles du Palais des Festivals et des Congrès, ça représente en effet direct, indirect et induit 850 millions d'euros de création de richesses, de création. En termes d'emplois, c'est 12 000 emplois. Donc on est aujourd'hui totalement à l'arrêt. Cette activité, c'est pas moins 20, moins 50, c'est moins 100%. Elle est totalement à l'arrêt pour des raisons compréhensibles d'interdiction de rassemblement, pour des raisons sanitaires.
Est-ce que
derrière
malgré tout,
ces chiffres-là, voilà, il y a une réalité humaine très très violente.
Et
c'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions pour participer
pour
à la reconstruction.
Pour les prochaines semaines, pour la rentrée, parce que d'autres événements sur Cannes attendus à la rentrée, bien sûr l'édition 2021, on peut pas se dire on enjambe l'édition 2020 et se dire rendez-vous en 2021, c'est pas possible dans les conditions actuelles et quand on voit comment la situation évolue dans le monde.
D'abord, il faut ce qui conditionne l'activité économique et événementielle, c'est bien évidemment l'activité sanitaire. Donc aujourd'hui, dans notre ville, la situation est devenue bonne. Il y a encore des familles qui affrontent la maladie, mais quasiment plus. On a plus notre hôpital qui a été très performant, qui a travaillé avec le privé, à zéro lit en réanimation en Covid-19 au moment où je vous parle, alors qu'on était monté haut au départ. Et la situation est bonne. Mais il faut voir l'évolution de la courbe, la fameuse courbe épidémiologique. Soit le virus disparaît et tant mieux, et on peut aussi l'espérer, soit il stagne et il va falloir trouver le modus operandi pour retrouver des interactions humaines, des échanges, parce qu'on ne peut pas vivre tous à distance. Je veux dire, c'est une réalité anthropologique. Je pense que l'homme a besoin de se retrouver. C'est ce que veut dire aussi le Festival de Cannes. Il y a fête, il y a rencontre.
Mais justement, parlez-moi quand même du festival, parce que ce festival international, vous m'en parlez assez peu, même si bien sûr les conséquences économiques, elles sont là, on l'a dit. Juste un mot quand même, parce que je sais que vous avez beaucoup parlé avec Pierre Lescure, avec Frémaux, jusqu'au dernier moment. Est-ce que vous avez espéré jusqu'au dernier moment monter ces marches avec le masque? Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui?
Non, c'est très sérieusement, il y a longtemps qu'avec Pierre Lescure et Thierry Frémaux, on sait qu'il n'y aura pas l'édition 2020 du Festival de Cannes, en tout cas au mois de mai. On le sait depuis très longtemps.
Un label Cannes 2020, ça fait sens.
Et même ça aurait été indécent, si vous voulez, au moment où on affronte la maladie, de monter des marches, ça aurait été complètement décalé. Enfin, c'était indécent. Donc la question ne se posait pas. Est-ce qu'on a essayé de voir si on pouvait
2020...
le recaser dans l'année. Voilà, c'est tout. Mais pour
ça,
des raisons de calendrier, Dans la configuration que l'on connaît du festival, c'est-à-dire un grand marché du film, parce qu'il y a, ouais, y a cette réalité-là, plus une sélection indépendante, plus de l'intellectuel, du glamour, du commercial, et du culturel, non, ça sera pas possible. On réfléchit à des formules différentes pour marquer l'événement, pourquoi pas à Cannes en fin d'année. On y réfléchit, on a le droit d'y réfléchir. Et ensuite, le Festival de Cannes, lui, va essayer de labelliser des films, de faire exister le festival peut-être sur d'autres événements. Mais un festival évanescent n'est pas un vrai festival. Un festival, c'est la rencontre de personnes qui mettent les œuvres à égalité. Sur le plan culturel, c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a une Palme d'Or, la dernière coréenne, qui devient un succès mondial fantastique grâce à la Palme d'Or.
Ouais.
Et qui est un film populaire et de qualité. Ouais.
Bien sûr. Un mot encore, David Cisnard, parce que Cannes, c'est évidemment cette croisette, c'est aussi vos plages, les restaurants de plage et j'en passe. Des surfeurs ont été aperçus sur des plages de Cannes. Le déconfinement, ça y est, comme tout le monde, ou presque. D'où ? Comment ? Pourquoi ces surfeurs aperçus sur des plages à Cannes ?
Écoutez, quelle chance, quel bonheur de pouvoir faire du surf d'abord. Ensuite, ce qu'il faut, c'est être rigoureux sur le plan médical et sanitaire. Donc, je pense qu'il est moins dangereux de faire du surf que d'aller s'entasser dans un centre commercial. Si vous voulez. Voilà.
Sous quelles conditions elles peuvent rouvrir vos plages ? Parce que ça y est, le préfet des Alpes-Maritimes a donné son feu vert.
Non, c'est pas encore d'actualité. Le préfet des Alpes-Maritimes a confirmé ce que l'on savait déjà, ouais, il y a quelques jours en discutant avec lui, c'est-à-dire que avec des protocoles sanitaires et s'il, pas pour faire de la bronzette, quoi, hein, mais que qu'on puisse se balader sur une plage, ça pourrait être le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas, j'ai pas d'actualité là-dessus au moment où je vous parle.
Merci beaucoup David Lisnard, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions ce soir sur le Festival de Cannes, le coût évidemment, et puis l'avenir. Merci à vous. Merci.
Europe 1.
Suivre dans un instant Nathalie Lévy.
On va rester ensemble jusqu'à 20h. L'entreprise de demain va-t-elle se passer en télétravail ? Fini l'open space ? Qu'en est-il ? Vous en êtes où en ce moment ? 3921, hashtag Radio Verte. On partage vos expériences jusqu'à 20h.
Et votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et on est avec Sébastien Krebs pour un nouveau rappel des titres.
Et pour le deuxième soir consécutif, la mortalité en France repart à la hausse. 348 nouveaux décès recensés ces dernières 24 heures. La pression continue malgré tout de diminuer dans les services de réanimation. 170 lits de moins occupés. Il reste 21 595 malades hospitalisés. Et 57 785 personnes sont sorties guéries de l'hôpital. Voilà pour le bilan du soir. La nouvelle application en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur, elle est nécessaire désormais pour parcourir plus de 100 km. Attention, en Ile-de-France, il vous faut dès demain matin l'attestation de votre employeur pour prendre les transports aux heures de pointe sous peine de verbalisation. En Loire-Atlantique, les plages pourraient rouvrir dès demain. Information de notre correspondant Charles Guyard. La préfecture doit prendre ses arrêtés accordant des dérogations aux communes. L'usine Renault de Sandouville, mise à l'arrêt par une décision de justice, ne rouvrira pas avant le 22 mai, selon plusieurs syndicats. Et puis le dernier grand festival de l'été est à son tour annulé. Rock en Seine, qui était programmé fin août à Saint-Cloud, près de Paris, est reporté à 2021.
Merci beaucoup Sébastien. On se retrouve demain.
À demain.
Dès 18h, hein, absolument. Anissa, le temps.
Eh bien, le temps, demain, il est très humide. Il va pleuvoir toute la journée, demain, sur les trois quarts sud de la France. Vous prenez la Seine et toutes les régions qui se situent au sud de la Seine seront sous l'eau demain, avec même dans l'après-midi, sur les Alpes, le sud du Massif central et la vallée du Rhône, des coups de tonnerre. Donc, prudence dans ces régions. En fait, il n'y a qu'en Bretagne, Normandie, en région parisienne, dans le Nord et dans les Ardennes que le temps restera sec, avec même quelques éclaircies dans l'après-midi. Les températures. Ne sortez pas sans votre parka demain, il va faire froid. 1 degré à Charleville-Mézières, 2 à Verdun, 3 à Nancy, 5 à Belfort, 7 à Paris et 13 à Marseille. Ça c'est pour le matin. L'après-midi, nous aurons une moyenne de 13 à 18 degrés sur l'ensemble du pays, jusqu'à 25 la maximale pour Ajaccio. La suite de votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et ce soir, on va s'intéresser à l'entreprise de demain, l'avenir des open space avec le Covid, l'avenir du télétravail. Certains se sont habitués, venez nous dire comment ça se passe pour vous au 39-21.
Oui, avec nos invités ce soir et jusqu'à 20h. Bernard Vivier, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Vous allez nous accompagner avec Olivier Lefebvre également. Bonsoir à vous. Vous êtes vous délégué syndical central Force ouvrière chez PSA. Bienvenue à tous les deux dans cette demi-heure. Les auditeurs nous rejoignent en nombre. Je voudrais d'abord vous demander, Bernard Vivier, on a entendu des chiffres hein, tout à l'heure dans le journal de 19h. Au niveau du télétravail, on est passé de 7% des salariés en télétravail avant la crise à 30% ces jours-ci, soit 7 millions de personnes. Est-ce que c'est vraiment un virage qu'on est en train d'opérer, qui est en train de s'opérer?
Oui, c'est vrai, cette crise ne va pas bouleverser l'ensemble de l'économie, mais elle va effectivement provoquer des mouvements importants sur des points importants touchant à l'organisation du travail, aux mutations du métier et à la façon de travailler. Et le télétravail ne va pas, dans les semaines et les mois qui viennent, être regardé et vécu comme dans les temps passés. Nous assistons aujourd'hui au développement très réel du télétravail.
Je vais revenir vers vous parce que la question, c'est il y a la vision salariée et la vision direction qui n'est peut-être pas la même. Regardons du côté d'Olivier Lefebvre. D'abord, Olivier Lefebvre, du côté de chez PSA, est-ce que du coup on se pose la question de la même manière, qu'on soit salarié ou qu'on soit à la direction?
Le télétravail, c'est une histoire qui date un peu chez PSA. On y est depuis 2014, hein, donc en effet, on regarde pas les choses forcément de la même manière, mais il y a une volonté quand même de d'y trouver un équilibre. Hein. Oui. L'idée, c'est pour les salariés, nous en relation syndicale, l'objectif, c'est d'aller contractualiser un accord qui va permettre de protéger le salarié dans le télétravail, puisque c'est une nouvelle manière de travailler aussi. Hein. Ce sont des nouvelles choses. Mais comme je vous dis, on n'est pas novice. Ça fait 6 ans qu'on a cette pratique.
C'est presque précurseur.
Oui, tout à fait. On était avant les lois de 2005 qui permettaient le déploiement du télétravail. Donc ça permet aujourd'hui, je dirais, de se baser un petit peu sur le retour d'expérience. Et puis, il y a un deuxième retour d'expérience massif, c'est celui qu'on a vécu pendant la crise sanitaire, là, qu'il va falloir faire.
Bien sûr. Là, c'est évidemment un test grandeur nature. Hein. On va y revenir. Et Bernard Vivier, vous allez peut-être vous réagir à l'auditrice qu'on va prendre dans une seconde sur, voilà, peut-être que beaucoup de salariés aujourd'hui ont envie d'y aller. Peut-être que du côté des patrons de la direction, on est moins chaud à l'idée de garder tout le monde en télétravail. Alors, Sylvie est avec nous d'abord. Bonsoir Sylvie, vous nous appelez de Seine-et-Marne, bienvenue.
Bonsoir.
Alors vous êtes dans le bâtiment, hein. Vous êtes dans une entreprise du BTP à Reims et vous travaillez à distance dans le 77, hein, je crois.
Voilà, c'est presque ça. Je suis maître d'œuvre, mes bureaux sont à Reims, mais moi je suis détachée dans le 77.
Dans le 77, d'accord. Comment vous faites alors là aujourd'hui? Vous bossez chez vous et comment vous le vivez?
Alors ça va à peu près. Moi je suis assez habituée au fait de télétravailler dans le sens où je suis toute seule de l'entreprise de Reims en fait à être sur le 77. Oui. Donc je partage des bureaux avec des collègues qui font partie du même groupe, mais donc je bénéficie des moyens type salle de réunion et photocopieuse, mais en fin de compte je travaille toujours à distance. Tout ce qui est comptabilité, secrétariat, je suis assez isolée pour tout ça. Mais donc le fait d'avoir tout déménagé à la maison. Je suis assez privilégiée parce que j'ai une pièce pour moi, donc c'est assez pratique. D'accord. Et des enfants qui sont grands, donc ça fonctionne.
Et quels sont les plus et les moins, si vous le voulez bien, les avantages, les inconvénients que vous avez vraiment là pu
Le premier inconvénient, c'est moi, comme je travaille dans le BTP, il y a des plans à regarder, donc ça, forcément, j'ai pas forcément tout le temps tout sous la main. Bien donc sûr. Un plan sur un écran d'ordinateur, c'est pas très pratique. Après, tout ce qui est photocopie, tout ce qui est impression, à la maison, je ne peux pas m'amuser en photocopie autant de choses. Ouais. Ouais. Et puis, le problème, c'est la gestion du temps, parce qu'on n'a pas du tout de temps mort quand on travaille à la maison. On est concentré quand on rentre dans la pièce, on est concentré. En plus, avec la période du Covid, il y a eu beaucoup moins de coups de téléphone et beaucoup de mails. Depuis hier, ça a un peu changé.
Mais c'est ça aussi, c'est un peu des journées où on voit pas la fin peut-être. C'est ce qu'on va. Merci beaucoup Sylvie et bon courage à vous.
Merci. Hein. Merci. L'absence sociale aussi, c'est ça le problème.
C'est peut-être ça aussi, l'absence d'interaction. Olivier Lefebvre, du coup, c'est peut-être ça les limites du télétravail. C'est à la fois l'absence d'interaction et puis des journées à rallonge parce que on n'arrive pas à y mettre vraiment une limite, un point.
Ça fait partie des sujets sur lesquels nous on a bien identifié des risques. Hein. C'est la porosité entre la vie professionnelle. Oui. Là, il va falloir qu'on arrive clairement aussi à définir des règles du jeu. C'est pour ça qu'il faut contractualiser ça dans un accord. Hein, bon, FO avait déjà revendiqué des ouvertures de négociations, mais ça, pour le moment, on n'y est pas encore. Donc, on revient à l'entreprise. Et là, il y a forcément cette porosité. Il y a, comme on le disait, peut-être des aménagements à faire aussi au niveau des conditions de travail. Il faut que les gens soient équipés pour pouvoir travailler chez eux de manière à ce que l'activité professionnelle, elle se fasse au mieux. Et puis il faut avoir, il faut bien orienter aussi la déconnexion, c'est-à-dire que les gens, hein, ce qu'on appelle le droit à la déconnexion, c'est-à-dire qu'à un moment il faut s'autoriser à lâcher hein, et ne pas mélanger les genres, parce que ça fait partie des avantages et des inconvénients. On est chez soi, donc on peut faire des choses aussi qui sont personnelles, mais on est aussi dans le cadre d'une activité professionnelle. Donc il faut bien arriver à faire la frontière.
Voilà. Oui, cette frontière-là qui est encore un peu tenue et qu'il faut effectivement essayer aujourd'hui d'affiner. Merci beaucoup Olivier Lefebvre d'avoir été avec nous, délégué syndical central Force ouvrière chez PSA. Bernard Vivier, vous restez avec moi. Est-ce que les directions dans les entreprises valident vraiment cette envie peut-être de plus en plus prégnante des salariés de rester en télétravail? Vous allez m'y répondre dans une petite seconde, avec une étude aussi sur ce télétravail qu'on va détailler dans un instant. Sur
votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy et ses invités sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, avec vos invités. On s'intéresse à l'entreprise de demain après cette période de confinement. Vous pouvez bien sûr venir nous rejoindre et réagir au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Et Bernard Vivier est à mes côtés, directeur de l'Institut supérieur du travail. On s'est posé la question, on a regardé du point de vue peut-être un peu plus des salariés que des dirigeants. Aujourd'hui, Bernard Vivier, on voit bien que le télétravail a pris de l'ampleur durant cette crise. Est-ce que ça va continuer? Vous avez tendance à nous dire que oui, très certainement. Est-ce que les dirigeants d'entreprise voient cela d'un bon œil? Est-ce qu'ils ont envie de généraliser ce télétravail?
Oui, ils ont envie de généraliser ce télétravail, c'est dans l'air du temps, si on peut s'exprimer ainsi, en maîtrisant les avantages et les inconvénients. Et votre émission est très balancée dans le bon sens du terme, parce que Sylvie, le délégué Force ouvrière Olivier Lefebvre l'ont dit, les trois familles d'inconvénients sont là, les conditions de travail, la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, et puis cette dilution du lien social, du lien collectif avec les collègues. Et vous savez, dans une vie au travail, il n'y a pas que le bureau ou l'atelier qui compte. Il y a la machine à café, il y a le couloir, il y a les discussions, il y a la cigarette qu'on fume, c'est-à-dire une entreprise qui n'est pas seulement un lieu où des forces de production se mettent en œuvre, mais un lieu où une communauté humaine réagit avec des sentiments, des aspirations, des colères, des joies collectives. Voilà. Et les chefs d'entreprise Et les chefs d'entreprise aujourd'hui voient tous ces inconvénients, mais voient aussi tous ces avantages. Davantage de flexibilité, une plus grande productivité, une amélioration du bilan carbone aussi, il y a moins de déplacements, une réduction des locaux, des frais de locaux, des retards, de l'absentéisme. Pour les salariés, il y a aussi des avantages, moins de transport, davantage d'autonomie. Et puis, n'oublions pas, pour les territoires, pour l'aménagement de notre pays, une capacité de développement de régions qui était un peu en marge des grands centre d'activité de production.
Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer Bernard Vivier que évidemment ce soit pas du tout ou rien, c'est-à-dire que on commence à adopter du télétravail partiel, 2 jours oui contre 3 jours au bureau. Est-ce que ça peut être la bonne formule?
Oui, le côté progressif et négocié de cette évolution est importante. Cette évolution va se faire. Vous savez, elle fait penser au début des années 1970, il y a très très longtemps, où on a instauré dans les entreprises les horaires variables et beaucoup de réticences. Et maintenant, les horaires variables sont pratiqués par la quasi-totalité des salariés. Pas tous, mais beaucoup. Eh bien, il va falloir effectivement introduire cette action de façon progressive et, répétons-le, de façon négociée avec les représentants du personnel.
Du personnel, bien sûr.
Le cas de PSA est intéressant.
Et oui, parce qu'en plus, ils ont été très tôt sur le dossier. On va y revenir. Oui, Bernard, je reviens vers vous dans une seconde. On est avec un auditeur, Gérard, qui nous appelle du Val-de-Marne. Il est dans le 94. Bonsoir, Gérard.
Oui, bonsoir. Oui, je voulais m'inscrire un petit peu en faux par rapport à ce chant des sirènes. sur le télétravail, comme quoi c'était la panacée.
Ah ben non, c'était équilibré. Vous avez même écouté Bernard Vivier, il disait que c'était très équilibré.
Oui,
il y a les plus
non,
et les moins.
Non, mais quand il cite les horaires variables, c'est dans l'entreprise. C'est pas les horaires variables chez soi, quoi. Donc, moi, j'ai connu les horaires variables. J'ai été l'un des premiers dans mon entreprise, une grande entreprise de transport public, si vous voyez ce que je veux dire, ouais. À être pour les horaires variables. Non, là, il s'agit simplement de mettre un distinguo entre la sphère privée et la sphère publique. C'est-à-dire que quand vous êtes au travail, vous êtes au travail. Et quand vous êtes chez vous, si vous levez le matin, vous êtes dans votre chambre et que vous prenez votre ordinateur pour dépiler vos mails.
C'est quoi le problème grande... Je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Pour l'individu? Pour son psychisme?
Bien sûr, pour son équilibre familial. C'est-à-dire
oui, mais il y en a quand même aujourd'hui qui plébiscitent de plus en plus cette formule-là. Donc c'est bien qu'on y voit un intérêt.
Hein. Mais attendez, moi je donne simplement mon avis. Je dis qu'à terme, le télétravail est un piège parce que vous n'avez plus de séparation entre votre vie professionnelle et votre vie privée. C'est tout ce que je dis. À la limite, moi j'ai des amis qui sont médecins, qui sont avocats, qui sont architectes. Bon, ils sont dans un autre local et quand ils sortent de ce local, ils viennent dans leur sphère privée. Et au jour d'aujourd'hui, vous ne l'avez plus. Cette charge privée.
Vous avez raison, Gérard. On va demander à Bernard Vivier de nous dire effectivement parce que cette absence de rupture entre sphère privée et sphère professionnelle, peut-être qu'au bout d'un moment, ça peut porter sur le système, pour parler un peu de manière abrupte.
Oui, et la précédente auditrice Sylvie, comme le militant syndical Force Ouvrière, l'a bien indiqué, la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est la raison pour laquelle les discussions, les négociations doivent aboutir à des textes et à des pratiques extrêmement précises. Le droit à la déconnexion, la fourniture d'un matériel dédié, un accès à la formation également, et le local, le lieu. Gérard a raison, quand on a une profession libérale, on a souvent un certain confort dans l'habitation. Mais si l'on est secrétaire, il y a des secrétaires qui sont en télétravail plusieurs jours par semaine, il faut bien que le lieu de travail soit identifié et isolé de la vie familiale. Il serait insupportable de subordonner la vie familiale à la vie professionnelle.
Bien sûr. Alors, on va en reparler avec Anne-Sophie Godon. Bonsoir, madame. Vous êtes directrice de l'innovation chez Malakoff Humanis, qui a publié d'ailleurs une étude sur le télétravail des Français en confinement, notamment la manière dont ils le vivent. Et globalement, c'est presque un plébiscite. Non, je n'irai pas jusque-là, mais on n'est pas loin.
Non, alors en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Effectivement, cette étude, elle montre et elle confirme ce côté très balancé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des effets très bénéfiques qui ont été cités, à la fois pour les salariés, pour les entreprises aussi, et puis pour la société en général, et puis des facteurs de risque. Et cette étude aussi, elle confirme finalement que ce mouvement, il est en marche. Il faut réaliser que au moment où on se parle, 50% des salariés du secteur privé, dans des entreprises de plus de 10 salariés, ont testé le télétravail. On était à 30% en décembre. 20 plus là viennent de découvrir le télétravail. Donc c'est un salarié sur deux. Voilà. Et donc c'est voilà. Donc le mouvement, il est parti. Et donc je crois que toutes nos réflexions, elles doivent porter sur comment est-ce qu'on accompagne ce développement en ayant connaissance de ce que ça a de bénéfique. Et donc, il faut essayer de préserver. Et notamment, on a beaucoup parlé là depuis quelques minutes de la flexibilité, qui est vraiment je pense, ce que les salariés finalement plébiscitent le plus. C'est ce côté flexible. Donc, il ne faudrait pas non plus que les dispositifs qu'on va proposer
réduisent trop.
Donc, je pense qu'il faut avoir conscience de l'ensemble des risques. Ça a été dit, les conditions de travail notamment, les enjeux pour la santé psychologique, le lien social. Tout ça, c'est extrêmement important et ça va être complexe. La question des conditions de travail au domicile, c'est complexe. Donc, il faut avoir conscience des risques et des bénéfices et il faut essayer de tirer parti du meilleur.
Exactement. Merci beaucoup voilà, pour cette étude donc, que vous venez de livrer, Anne-Sophie Godon. On va se retrouver, Bernard Vivier, dans un petit instant hein, sur ce télétravail. Est-ce que vraiment on ne reviendra pas en arrière? On se retrouve dans un instant avec les auditeurs également, 39-21.
Restez avec nous, votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy, avec vos invités. On s'intéresse ce soir à l'entreprise de demain, l'avenir du télétravail, les open space. Vous pouvez réagir au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Et Bernard Vivier est à mes côtés, directeur de l'Institut supérieur du travail. Le télétravail va prendre de l'ampleur, c'est ce que vous nous disiez il y a quelques instants. On voit les plus et on voit les moins aussi, et le cadre qu'il va falloir évidemment faire exister très rapidement. Je me posais une question quand même, Bernard Vivier. Est-ce que cela, si ça prend de l'ampleur définitivement, cela ne va pas engendrer des inégalités? Parce qu'il y a des secteurs où c'est impossible, le télétravail, la restauration, l'agroalimentaire, le bâtiment par exemple, et puis des corps de métier. Est-ce que c'est pas de nature du coup à effectivement générer comme ça des inégalités?
Des inégalités, oui, dans la réalisation du travail, et oui, donc une fracture entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Ce n'est pas forcément d'un côté les cadres et ingénieurs et de l'autre les ouvriers ou les opérateurs, mais il y a des métiers où ce n'est pas possible. Si vous êtes conducteur d'autocar, vous ne pouvez pas le faire en télétravail. Si vous êtes sur une chaîne de montage automobile, vous ne pouvez pas le faire en télétravail. L'exemple de PSA est intéressant. PSA en France est à peu près 49 000 salariés. Il n'y en a que 23 000 qui sont éligibles au télétravail, c'est-à-dire en gros une petite moitié. Et aujourd'hui, sur ces 23 000, il y en a déjà 14 000 qui pratiquent le télétravail au moins un jour par semaine. Oui. Ce que veut faire la direction, c'est accroître le nombre de salariés et le nombre de jours par salarié en télétravail. Cela va nécessiter évidemment que cette notion d'entreprise, communauté humaine, on ne peut pas dissocier à longueur de journée, à longueur d'année, un ingénieur et un opérateur. Bien sûr. Va falloir repenser la notion de communauté d'entreprise.
Ah oui, forcément. Alors, on va y revenir, Bernard Vivier. Une auditrice nous a contacté au 39-21. Bonsoir, Patricia. Bonsoir à vous, bienvenue sur Europe 1. Patricia, qu'on a perdu mais qu'on va retrouver incessamment, qui nous appelait, qui travaille dans les ressources humaines, elle va nous dire comment ça se passe de son côté. Dites-moi, Bernard Vivier, aujourd'hui le gouvernement, Muriel Pénicaud, a dit j'invite au maximum à rester en télétravail les entreprises qui le peuvent, les secteurs qui le peuvent, etc. Est-ce que véritablement l'employeur peut faire revenir, forcer son employé à revenir, ou est-ce qu'il est de bon ton de continuer à faire cette demande de la part du salarié sans avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête?
Aujourd'hui, le principe de précaution l'emporte sur toute autre considération. Nous sommes encore dans la gestion de la crise sanitaire. Il est évident que lorsque cette crise va se résorber, elle n'est pas du tout résorbée encore, le télétravail ne sera pas l'outil de protection des salariés. Il va être un outil possible dans une forme normale de travail, mais attention, cela nécessite non pas la hâte, le bricolage, on fait comme on peut aujourd'hui, mais quelque chose de très pensé, de très négocié. Là, il y a, au niveau national, comme dans les branches professionnelles, dans les secteurs d'activité, un champ immense de la négociation entre patronat et syndicats.
Oui, d'accord. Donc tout ça, la négociation en entreprise, donc voilà ce à quoi il va falloir se prêter après ce déconfinement et après cette période de crise sanitaire. Aujourd'hui, en tout cas, l'employeur a légalement la possibilité de refuser le télétravail à un salarié, y compris dans le cadre de cette crise sanitaire, hein, si je ne me trompe pas. S'il estime en tout cas que les conditions de la reprise d'activité sont bien conformes aux consignes.
Oui, dans le code du travail, aujourd'hui, le télétravail est une question de volontariat. Il ne peut pas être imposé, mais il peut être très fortement poussé en avant. Et nous sentons bien aujourd'hui des entreprises qui disent mais il faut faire de ce télétravail une des normes possibles du travail en entreprise. Donc là, il y a un basculement important qui demande à être réfléchi.
Est-ce que ça se passe de la même manière dans d'autres pays, Bernard Vivier, aujourd'hui, quand on regarde la France, évidemment, on se sert aussi des exemples de nos voisins européens. Je crois qu'en Suède, qui a misé sur l'immunité, hein, vous le savez comme moi, on est déjà très en télétravail là-bas, ce qui fait qu'il y a moins de monde aussi dans les rues, moins de monde dans les transports, et dans cette crise sanitaire, cela fait sens aussi. En Europe, globalement, le télétravail, il a le vent en poupe.
Oui, il a le vent en poupe. C'est un phénomène lié, bien évidemment, à l'évolution des technologies. Les technologies de l'information, de la communication permettent le télétravail et plus qu'elles le permettent, elles y poussent au télétravail. Donc nous avons aujourd'hui un des effets de cette mondialisation, cet effacement des frontières, du temps, de l'espace, avec les bons côtés, les mauvais côtés. Et le télétravail demande, un peu comme la mondialisation, à non pas être refusé. Refuser la mondialisation, c'est un peu comme refuser que l'été succède au printemps et précède l'automne. Mais demande à être organisé, à être maîtrisé, pour que les orages, les intempéries n'abîment pas le pays.
Merci beaucoup Bernard Vivier de nous avoir éclairé ce soir, directeur de l'Institut supérieur du travail. Merci d'avoir été avec nous au 3921 pour les auditeurs. On se retrouve ici même, demain, même heure, même endroit, chers amis, avec les grandes voix, avec les interviews. Après 20h, c'est musique présentée par Émilie Mazoyer, avec ce soir le concert 1, 2, 3, Soleil à Bercy. C'était en 1998 avec Rachida, Khaled et Fodel. Et oui, du soleil dans les écouteurs ce soir. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain 18h, votre grand journal du soir. Salut à tous. Merci Anissa. À demain.
Salut Nathalie Lévy. À demain sur Europe 1.